5, 4, 3, 2, 1, ignition.
Chromosphère. Chromosphère, l'émission lesbienne, gay, bi, trans, intergenre, intersexe, mais néanmoins hétéro-friendly de Radio Campus Grenoble. Ah, Noël, Noël ! Voilà venu le temps des rires et des chants. Enfin, si vous avez de l'argent, parce que sinon ça va pas être marrant. Quoique, si ça se trouve, à Noël, de toute façon, vous travaillerez plus pour gagner plus et vous n'aurez même pas le temps de baigner dans l'esprit de consommation. L'esprit de la fête. L'esprit de la fête. Remarquez, à quoi reconnaît-on que le moral des Françaises et des Français est dans les chaussettes ? Au fait que les dites chaussettes soient d'avance pendues au-dessus de la cheminée en vue de Noël, pardi. Ça fait depuis la mi-octobre cette année que les chocolats et les jouets sont placés dans les magasins et les décos lumineuses sont là depuis bien un mois et demi. Or, chacune sait que l'esprit de Noël, c'est quelque chose quand même, euphorisant, allégeant, presque anesthésiant. C'est une des magies de Noël, on en oublie nos soucis pendant un temps et on les met de côté pour profiter du festif ambiant. Doit-on voir un hasard à la coïncidence du fait que l'on invoque l'esprit de Noël avec 2 mois et demi d'avance cette année et de celui de la grogne globalisante des diverses corporations hexagonales envers le gouvernement, profs, internes de médecine, magistrats, marins pêcheurs, cheminots, pilotes d'avion, étudiants, quoi d'autre encore, bon... Il n'y a que les médias pour ne pas voir voir la globalisation, ne pas avoir fait le constat de cette globalisation, continuant de segmenter, fractionner, diviser. À chaque jour, sa corpo qui grogne, pas plus d'une ou deux corpos par édition, plus de quelques minutes par édition. Ne surtout pas donner l'impression que tout le monde n'est pas content pour éviter que ça devienne pire. Alors doit-on sentir le chloroforme qui se dégage chaque année un peu plus des guirlandes en direction des grévistes et des pauvres ? Non, non, car pour cela, il faudrait qu'il y ait des accointances entre nos dirigeants et les propriétaires d'enseignes de supermarchés, ou encore avec les publicitaires. C'est improbable, ce serait fortuit et regrettable, comme des boules de Noël en octobre. Enfin, bon. En cette fin d'année, Chromosphère va sacrifier au rituel des fêtes, et aujourd'hui, elle vous racontera des histoires. Évidemment, ce ne sera pas l'histoire de la bergère et du petit ramoneur, quoique vous imaginez bien ce qu'on pourrait en faire si jamais on en parlait. Même si... Bon, allez, un peu de gravité, ça peut faire du bien aussi. Alors ouvrez vos oreilles, retrouvez votre âme d'enfant et faites-vous plaisir. Écoutez-vous la chromosphère pour cette fin d'année 2007.
Maintenant, on raconte...
Ici Brad Montgomery.
Et Drusilla Fleischmann.
Oui, bon, ben, à cette saison de réconciliation et de bonne volonté, on nous a chargé de vous faire la lecture d'un conte de Noël.
Et bien que Brad soit un psychopathe et moi une bombe sexuelle, nous tenions quand même à partager avec vous la joie de Noël.
On est au mois d'avril.
Brad, des enfants nous écoutent.
Oui, c'est pas ça, j'ai dit ça. J'aurais pu dire ta.
Notre conte que voici s'intitule « Le berger de Noël ». Alors allez-y, oncle Brad.
Il était une fois, il s'est passé quelque chose. Enfin... Qu'est-ce qu'il y a?
Brad.
Oui?
Je...
Quoi?
Non.
Bon.
Brad.
Oui?
Je...
Vous.
Moi.
Quoi?
Noël.
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 Pourquoi?
Quoi?
Noël.
Parle d'une perte de temps.
J'ai enfin trouvé l'amour.
Merci Brad, merci Drusilla. Nous, notre histoire, elle s'appelle Le Rideau. C'est une pièce de théâtre de Loïc Le Phoque Fringant. C'est une pièce de théâtre familiale. C'est idéal pour les fêtes de fin d'année. Nico, t'as encore laissé les rideaux du living room ouverts. Il y a les voisins qui matent. On leur fait un joli sourire avant de les priver de leur spectacle préféré, le couple gay du quartier. Et hop, rideau !
Et il y a du soleil, j'ai besoin de soleil.
C'est bon, on peut ouvrir et ils se sont cassés. Mon Titi va pouvoir prendre le soleil. Tu es toujours soucieux par rapport à ce projet avec Lucie ?
Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Tu te rends compte ? Déjà que les voisins sont collés à leurs vitres parce qu'on est deux mecs et qu'on vit à deux, le jour où on aura un petit...
Facile, le jour où on aura un petit, ils auront tous en même temps des jumelles.
Ah ah, très drôle.
Mais Grenier, d'une part, si t'aimes le soleil, il serait bien qu'on quitte cette belle cité HLM et cet aquarium pour un appart avec un vrai balcon sur lequel on pourra s'ébattre, s'étendre, bronzer, ou mieux, une petite maison avec un jardin. Du reste, on sera obligé. Cet enfant, il faudra bien qu'il ait une chambre.
Tu crois pas qu'on va un peu vite en besogne ?
Ça fait 4 ans qu'on vit ensemble, 6 mois que Lucie et Zoé nous proposent de faire un enfant dont nous serions les pères, 6 mois qu'on leur répond qu'on a besoin de réfléchir, 6 mois qu'elles poirotent. Tu me dis qu'il est urgent d'attendre, moi je te dis qu'il est urgent de se décider avant qu'elles se lassent. Parce que si elles s'en trouvent d'autres des pères et qu'ensuite on se décide à avoir un petit, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. C'est une opportunité rare qui nous est offerte, une chance rare. 2 vrais amis dont le couple tient la route, 2 amis dont on se sent suffisamment proche pour pouvoir envisager d'élever un enfant avec elles, sachant qu'on a la même approche de l'éducation, 2 amis qui nous le proposent et qui attendent des mois qu'on daigne leur répondre.
Et si c'était non ? Non en ce qui me concerne.
Nous serions alors tous fixés et nous nous ferions une raison. Lucie et Zoé nous feraient un peu la gueule. Moi, je te la ferais... beaucoup. Ce qui est clair, c'est que je ne prendrai pas le risque de bousiller notre relation en te faisant un petit dans le dos.
Ça me fout la trouille. Nous, lui, les autres.
Je sais. Pense qu'on serait 4 à se prendre la tête, qu'en se concertant, qu'en réfléchissant, tous 4. Il serait plus dur de se gourer que pour 2 jeunes hétéros harcelés par leurs parents respectifs avec leurs petits conseils. Fais ci, fais ça, moi de mon temps, gna 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 avec vous. Nous, on a notre force de caractère, on a la force du nombre si on est 4.
La force du nombre, la force du nombre. Tu crois pas que c'est les parents hétéros qui l'ont ? Tu crois pas que c'est les enfants d'hétéros qui l'ont ? Le jour où ils apprendront, ces chers petits, dans son école, que cet enfant-là a 2 papas, tu crois pas qu'ils vont lui faire comprendre sa douleur en lui hurlant toute la journée dans les oreilles que ses parents sont pédés ? Et quand ils lui demanderont si lui-même l'est parce que, avec leur cervelle microbienne, quand on est pédé, on prend des pédés, tu crois pas qu'ils vont lui en faire baver comme toi et moi on en a bavé ? C'est ce qui me fait peur. Cet enfant, j'aime autant lui éviter ça.
D'abord, cet enfant, il aura 2 papas et 2 mamans, à une époque où avoir un père est devenu un luxe dont la plupart des familles, monoparentales qu'elles s'appellent, sont privées. Nous, si on en a tant chié, c'est parce qu'on s'est découvert homo dans un monde d'hétéro, avec de plus des familles bien réac, dont on ne pouvait attendre aucune aide à une époque où l'homosexualité était encore un tabou énorme. Mais les choses ont changé depuis. Peut-être, effectivement, qu'il faudra expliquer aux instits, aux parents d'élèves, que cet enfant, que nous déciderons peut-être d'avoir, devra expliquer à ses potes qui nous sommes, quelle est notre démarche. Mais tant Lucie Zoé que toi et moi avons les pieds sur terre. Et puis, c'est clair, il y aura des problèmes particuliers à gérer, des impondérables, des trucs qu'on n'aura pas prévus. On aura beau veiller à son alimentation, à ne pas lui faire avaler des trucs génétiquement modifiés, à le nourrir bio, à ne pas le mettre dehors quand une centrale nucléaire pètera en Ukraine, en Russie ou en Bulgarie, bien qu'officiellement la ligne Maginot arrête les nuages radioactifs, si cet enfant est obèse, si myope qu'ils doivent porter des lunettes en cul de bouteille, et si en plus il porte un appareil multibag parce qu'il a les dents qui partent en live. Bah cet enfant, s'il est soutenu comme nous ne l'avons pas été, si on l'aime, si on le lui témoigne suffisamment... Sans l'étouffer, il sera heureux et donc suffisamment fort pour désamorcer les critiques. Le bonheur, c'est désarmant, non ?
Ouais, nos voisins sont désarmés, c'est clair. S'ils sont tout le temps collés à leur fenêtre, c'est parce qu'ils sont jaloux, envieux, qu'ils rêvent de vivre ce que nous vivons.
Être de bons parents, c'est faire en sorte que ce petit être fragile, si dépendant, dont on a la responsabilité, devienne au fil des ans un être autonome, qu'il puisse s'épanouir, s'affirmer, se sentir exister, être heureux, pas modelé à notre image, mais accompagné dans sa découverte du monde. Moi, je suis barbu, binoclard, épais comme une corde à linge, palichon et plus très jeune, dans un monde qui promène l'imberbe, musclé, bronzé, très jeune au regard assassin. Jusqu'à ce que je te rencontre, je me suis demandé s'il me serait donné un jour de rencontrer un mec qui puisse s'intéresser à moi et qui puisse contenter mes exigences au niveau intellectuel. J'étais résolu à rester moi-même, mais je commençais sérieusement à envisager un célibat illimité. J'ai tenu bon. La bonne santé, l'équilibre, c'est la capacité à affronter les situations douloureuses, les coups durs que la vie nous assène parfois. Il faut affronter des deuils, des ruptures, des pépins. Moi, j'avais fait le deuil de l'espoir d'avoir un enfant un jour. Aujourd'hui, j'y crois à nouveau parce qu'une possibilité s'offre à nous. Peut-être que demain, j'aurai à nouveau à faire le deuil de cet enfant parce que tu n'es pas prêt, parce que tu ne veux pas, et je le ferai parce que je t'aime et que je veux te garder. Mais crois-moi, je te ferai la gueule. Juste ce qu'il faut pour que tu le sentes passer, pour me venger sans prendre le risque de devoir craquer et de te casser. Pas folle, la guêpe. Tiens, à propos de bestioles, t'as pas vu le chat ?
Je sais pas, j'ai ouvert la fenêtre tout à l'heure.
Bon, cherche pas. Il est là. Ils l'ont buté, ce salaud. C'est des plombs. Ils l'ont truffé de plomb.
Pas de panique. Il est mal, mais il respire. On court chez le véto. On ressuscite le chat, histoire que notre petit ait un pote de son âge à la maison quand il arrivera.
La toxoplasmose.
Bah, il suffit de vacciner le chat, ou le petit, ou les deux.
Ah, t'es fou pas aujourd'hui, il est déjà à moitié mort, pas la peine d'en rajouter.
Bien sûr. Pour que nos chers voisins ne puissent pas essayer de le flinguer à nouveau, on le place chez Lucie et Zoé en attendant d'avoir trouvé notre maison. Ça te dit ? On passe les voir après le veto ?
Et on leur annonce la bonne nouvelle pour le petit.
Ça marche. Tu fermes le rideau, le chat est emballé, on peut y aller.
Si le chat claque, je bute les voisins.
C'est ça. Et je viendrai tous les week-ends t'apporter des oranges au parloir et te montrer notre bébé. N'oublie pas, un enfant a besoin de deux papas et de deux mamans.
Chromosphère, l'émission lesbienne, gay, bitrans, hétérofriendly de Radio Campus Grenoble 90.8.
Fais sa fête à Noël.
Savez-vous ce qu'est un blender ? Je n'ai pas dit un binder, j'ai bien dit un blender. Un blender, c'est un mixeur, mais c'est la version anglophone, un petit peu québécoise sur les bords, du mixeur. Un blender, donc, pour faire des bouillies. Vous savez ces bouillies qui vont dégouliner sur les bajoues de celui ou celle qui les mangera. Pourquoi je vous parle de ça ? Ah, mais parce que c'est encore une tradition à Noël de faire des cadeaux.
Lucien, Lucien. Hein? T'as-tu? T'as pas idée comme je dors profondément, là.
Arrête ton niaiser, là.
Qu'est-ce qu'il y a encore?
Hey, Noël, c'est dans 3 semaines, puis j'ai aucune idée de ce que je vais acheter à ma mère. Tu te rends-tu compte?
Là, donne-lui un blender.
Mais pourquoi un blender?
Ben, elle doit aimer ça manger mou à pas de dents.
T'es méchant. Moi,
serais-tu ta mère,
moi?
Ben, je serais pas de ta mère. Je te fais une suggestion de cadeau utile.
Puis le fils à ma soeur, il achète quoi, lui?
Là, si tu, moi, là, achète-le un puzzle.
Un puzzle, là. Vois-tu avec un puzzle? De puzzle! Il est bien trop mongol pour jouer avec un puzzle.
Ben, achète-le un petit marteau en plastique. Il va se taper la tête avec. Il va être super content.
T'es fort, toi, des suggestions, hein? T'es bien fort.
Hey, cadeau de Noël, là, c'est une grosse arnaque de capitaliste, ça. Ah ouais, sors-le ton cash, le tata, là. Hey, écoute, là, Noël, c'est la fête du petit Jésus. C'est la fête de l'amour et de l'amitié avant tout.
T'as-tu fumé un joint avant de te coucher?
Ben, c'est ça, ris-moi.
Ben là, excuse-moi, mon poulet, là, mais honnêtement, là, si ma mère a le choix entre ton amour et ton amitié par un blender... Ben, je pense qu'elle va prendre le blender.
Ben, parce que c'est une capitaliste pourrie.
OK, puis si je te donne une belle scie sauteuse à Noël, vas-tu me traiter de capitaliste pourrie?
Ah, non, ça compte pas. Ça, c'est différent parce que c'est pas la même chose.
Ah, pourquoi?
Ben, parce qu'une scie sauteuse, ça, c'est comme... wow, là, t'as besoin de ça, une scie sauteuse pour bâtir un monde meilleur.
Oh boy! Hey, t'as jamais pensé de te faire pousser les cheveux puis t'acheter une guitare, toi? T'aurais un succès fou, hein?
Yaman avec ma tissot, t'as eu dobe 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 da!
Bon, ça suffit, là. Puis si on va la faire, c'est quoi tu veux pour Noël, là?
Ben, tu sais, je te l'ai montré l'autre jour au magasin.
Ah, ouais, ouais, ouais. C'était quoi, donc?
La sacoche bleue avec les 10 picots.
Ah, ouais, ouais, la sacoche bleue.
C'est ça, mais pas la pleine, là. Celle avec les 10 picots.
Ah, avec les 10 picots,
là. Ben, je trouve ça beau, les 10 picots, là. C'est comme toutes des flacons de Noël, là.
Bon, ben là, fais ton dodo en rêvant tes 10 picots, là. Demain, on va faire une liste, là. Puis tu vas voir que tout va bien aller. OK?
OK. Bonne nuit, mon poulet.
C'est ça, bonne nuit.
Enfin, enfin! Entrez, entrez, puis vous avez trouvé le chemin. Mettez vos côtes sur le lit, mettez vos bottes dans le bain. Oh, faites attention à mon... Ah, shit. C'est pas grave.
Le temps des fêtes est arrivé. Ben oui, déjà la mi-octobre. Toute la famille est préparée pour un autre échange de microbes. Y a assez de lumière sur ta maison pour faire atterrir un avion. Et tu attends le Père Noël qui doit t'apporter des bébelles. Mais le Père Noël, y existe pas.
Ben voyons donc,
y existe pas.
Tu vois ça?
Y existe pas. C'est mon oncle Guy. C'est pour ça qu'il sent le whisky. Qui pète, qui rote, pique ses pieds purs. Puis qui raconte des jokes de cul. Y a un barbu au centre d'achat. Il dit qu'il est le Père Noël. Tout ce que je peux dire, c'est que ce gars-là, j'ai déjà vu sa face aux nouvelles. Le Père Noël, il existe pas. De Noël qui te donne des becs en pincette à sans parfum pis est pas belle mais faut frencher ma tante Guylaine.
Donne un bec à ma tante là.
On dit que ça fête au petit Jésus mais c'est facile à oublier. C'est une ma faute moi si Jésus il est né la veille du Boxing Day. L'esprit de Noël ça existe pas. Ça existe pas.
Ben oui, c'est ça.
Ça existe pas.
Arrête de dire ça.
Ça existe pas.
Briseur de féerie.
Ça existe pas.
Ah, donne-moi ça, maudit grelot à la marde.
Mais il est temps de savoir ce qui s'est passé au palais pendant l'absence du califat Haroun al-Rachid. Le califat n'était sorti de son palais avec Jafar que pour aller prendre un peu d'air par les champs et se distraire pour un moment de sa passion extrême pour Force des cœurs. Or, il n'était point le seul que torturait cette passion pour l'esclave. Son épouse et cousine, Seth Zubeida, depuis l'arrivée au palais de cette adolescente, devenue la favorite exclusive de l'émir des croyants, ne pouvait plus ni manger, ni boire, ni dormir, rien, tant son âme était remplie par les sentiments de jalousie que peuvent ressentir les femmes pour leur rival et pour se venger de cet affront continuel qui la rapetissait à ses propres yeux et aux yeux de son entourage. Elle n'attendait qu'une occasion, soit une absence fortuite du califat, soit un voyage, soit une occupation quelconque qui lui permit d'être libre de ses mouvements. Aussi, dès qu'elle lui apprit que le califat était sorti pour aller à la chasse et à la pêche, elle fit préparer dans ses appartements un festin somptueux où ne manquaient ni les boissons ni les plateaux de porcelaine remplis de confitures et de pâtisseries. Et elle envoya inviter en grande cérémonie la favorite force des cœurs, en lui faisant dire par les esclaves « Notre maîtresse Seyd Zobeïda t'invite, notre maîtresse. » Et elle se leva à l'heure et à l'instant, et elle ne savait pas ce que lui réservait le destin dans ces moments. Et elle prit avec elle les instruments de musique qui lui étaient nécessaires et accompagna le chef eunuque aux appartements de Seyd Zobeïda. Lorsqu'elle fut arrivée en présence de l'épouse du califat, elle embrassa à plusieurs reprises la terre entre ses mains, puis se releva et d'une voix infiniment délicieuse, elle dit « La paix sur le rideau levé et le voile sublime de ce harem, sur la descendante du prophète et l'héritière de la vertu des Abbassides, puisse Allah prolonger le bonheur de notre maîtresse aussi longtemps que le jour et la nuit se succéderont l'un à l'autre. » Et ayant dit ce compliment, elle recula au milieu des autres femmes et des suivantes. Alors, Seyd Zobeïda, qui était étendue sur un grand divan de velours, leva lentement les yeux vers la favorite et la regarda fixement. Et elle fut éblouie de ce qu'elle voyait de beauté en cette adolescente accomplie qui avait des cheveux de nuit, des joues comme les corolles des roses, des grenades à la place des seins, des yeux brillants, des paupières languides, un front éclatant et un visage de lune. Et certes, le soleil devait se lever de derrière la frange de son front, et les ténèbres de la nuit s'épaissirent de sa chevelure. Le musc ne devait être cueilli que de son haleine durcie, et les fleurs lui devaient leur grâce et leur parfum. La lune ne brillait qu'en empruntant l'éclat de son front. Le rameau ne se balançait que grâce à sa taille, et les étoiles ne scintillaient que de ses yeux. L'arc des guerriers ne se tendait qu'en imitant ses sourcils, et le corail des mers ne rougissait que de ses lèvres. Était-elle irritée? Ses amants tombaient par terre privés de vie. Était-elle calmée? Les âmes revenaient rendre la vie aux corps inanimés. Lançait-elle un regard? Elle ensorcelait et soumettait les deux mondes à son empire, car, en vérité, elle était un miracle de beauté, l'honneur de son temps et la gloire de celui qui l'avait créée et perfectionnée. Lorsque Seyd Zobeïda lui admirait et détaillait, elle lui dit « Aisance, amitié et famille, sois la bienvenue parmi nous, ô force des cœurs. Assieds-toi et divertis-nous de ton art et de la beauté de ton exécution. » Et l'adolescente répondit « J'écoute et j'obéis. » Puis elle s'assit, et allongeant la main, elle prit d'abord un tambour, un instrument admirable, et on put ainsi lui appliquer ces vers du poète. Ô joueuse de tambourin, mon cœur à t'entendre s'est envolé. Et tandis que tes doigts battent le rythme profond, l'amour qui me tient suit la mesure, et le contre-coup frappe ma poitrine. Tu ne prendras qu'un cœur blessé, que tu chantes sur un ton léger, ou que tu jettes le cri de la douleur, tu pénètres notre âme. Ah, lève-toi, dépouille-toi, ah, jette le voile, et devant tes pieds légers, oh, toute belle, dans le pas de la délice légère et de notre folie. Et lorsqu'elle eut fait résonner l'instrument sonore, elle chanta, en s'accompagnant de ses vers improvisés. Les oiseaux, ses frères, ont dit à mon cœur, oiseau blessé, fuis, fuis les hommes et la société. Elle chanta cette strophe d'une voix si merveilleuse que les oiseaux du ciel s'arrêtèrent dans leur vol et que le palais se mit à danser de tous ses murs de ravissement. Alors force des cœurs laissa le tambourin et prit la flûte de roseau, sur laquelle elle appuya ses lèvres et ses doigts. Et on put de la sorte lui appliquer ces vers du poète. Ô joueuse de flûte, instrument d'insensible roseau, que tiennent sous tes lèvres tes doigts de souplesse, acquiert une âme nouvelle au passage de ton haleine. Souffle dans mon cœur, il résonnera mieux que l'insensible roseau de la flûte au trou sonore. car tu y trouveras plus que cette blessure qui s'aviveront au toucher de tes doigts. Lorsqu'elle eut enchanté les assistants et les assistantes d'un air de flûte, elle déposa la flûte et prit le luth, instrument admirable, dont elle régla les cordes et l'appuya contre son sein en s'inclinant sur sa rotondité avec la tendresse d'une mère qui s'incline sur son enfant. Si bien que c'est certainement d'elle et de son luth que le poète a dit. Ô joueuse de luth, tes doigts sur les corps de personne excitent ou calment la violence au gré de ton désir, comme un médecin habile qui, selon qu'il ait besoin, fait à son gré jaillir le sang des veines ou l'y laisse circuler librement. Qu'il est beau d'entendre parler sous tes doigts délicats un luth au corps de personne, parler à ceux dont il ne possède pas le langage, et de voir tous les ignorants comprendre son langage sans parole. Et alors elle préluda sur 14 modes différents, et chanta, en s'accompagnant, un chant en entier, qui confondit d'admiration ceux qui la voyaient, et ravit de délices ceux qui l'entendaient. Ensuite, force des cœurs, après avoir ainsi préludé sur les divers instruments et chanté des chansons variées devant Seth Zobeida, se leva dans sa grâce et sa souplesse ondoyante et dansa. Après quoi, elle s'assit et exécuta divers tours d'adresse, jeux de gobelets et d'escamotages, et cela d'une main si légère et avec tant d'art et d'habileté que Seth Zobeida, malgré la jalousie, le dépit et le désir de vengeance, faillit tomber amoureuse d'elle et lui déclarer sa passion. Certes, mon cousin et époux Al-Rachid ne doit point subir de blâme d'être si amoureux d'elle.
Chromosphère continue dans Guirlande et Noël sur Radio Campus 90.8.
La période des fêtes est une période tout à fait adaptée aux excès de richesse. Et la forme la plus évidente de ces excès, ce sont les repas. Vous savez, ces grands moments de bonbons que l'on fait le 24 au soir, le 31, le 1er avec mamie, le 25 avec tonton. Eh bien, en cette fin d'année, méfiez-vous de vos repas et particulièrement méfiez-vous de vos apéritifs. Car il est un piège qui rôde. L'apéricube. Oui, l'apéricube. Car c'est le sommet de la misère sociale. Replaçons le contexte pour les personnes qui ne sauraient pas comment marche un apéricube. L'apéricube est un morceau de fromage cubique fabriqué à partir de n'importe quel autre fromage qui n'a pas eu la chance de passer le contrôle qualité. On le fait fondre, on l'aromatise de façon excentrique, on l'emballe festivement et hop, ça fait un apéricube. Rappelons que, last but not least, l'emballage festif, lui aussi, comporte des écritures à l'intérieur, lesdites écritures formant une question du trivial poursuite, un peu comme dans les papillotes, sauf que si les papillotes arrivent en fin de repas, le résidu laitier susmentionné, comme son nom l'indique, est destiné à être servi lors de l'apéritif. Et c'est donc ce qui me pousse à dire que l'apéricube est le summum de la misère sociale. En effet, si vous prenez vos apéricubes seuls, c'est déjà que vos apéritifs sont désertés, vos invités ne considérant pas nécessaire de venir chez vous. Donc socialement, c'est raté. Bon, admettons que vos invités soient venus. Ce sont des collègues, des amis, de la famille. Vous leur servez un apéritif, il y a des apéricubes. Et là, c'est le drame, car il y a aussi les questions d'apéricubes. À cet instant, je vous pose une question. À quoi servent les questions d'apéricubes? Et on me dit, mais comme pour les mots dans les papillotes, à parler bien sûr. Soit, mais les papillotes arrivent en fin de repas, quand on ne parle plus beaucoup, on s'est déjà presque tout dit, et une petite blague ou une petite citation peut relancer quelques minutes la discussion. Si la question d'apéricube a le même rôle que la blague de papillote, c'est alors que dès l'apéritif, vos invités n'ont rien à vous dire, et réciproquement. Vos invités sont donc venus dans le seul but de profiter de vos largesses hôtelières, vos collègues, vos amis et même votre famille, échouant à ce test simple, montrent donc leur vrai visage. Ce ne sont qu'un ramassis de piques assiettes patentées dont il faut vous méfier au plus haut point. Et d'ailleurs, l'apéricube ne s'en cache pas. Voyez sa publicité. Un petit groupe d'aventuriers débarque sur une plage avec un coffre rempli de cubes assimilés aux cubes apéritifs. Arrivent des indigènes. Instant de suspense, tension, crispation. Soudain, un indigène tombe sur un cube. Hop, détente immédiate. Ils ne parlent pas la même langue. Ils ne se disent donc rien. Confirmation numéro 1. Mais ils s'amusent jusqu'à ce que l'aventurier demande ce qu'il y a à manger et où on comprend que les indigènes sont anthropophages. Je vous l'avais dit, méfiez-vous de vos invités. Confirmation numéro 2. D'autres me diront « Oui, mais non, l'apéricube, ça permet de faire connaissance. » Bien, vous avez donc des invités qui ne se connaissent pas. Vous avez invité des gens... peut-être même piocher au hasard dans l'annuaire. Le summum de la misère sociale, on n'en est pas loin. Mais passons, ils ne se connaissent pas. Il y a d'autres moyens pour faire connaissance que celui-ci, mais pourtant c'est celui-ci qu'ils choisissent. Ils se posent des questions d'apéricube. Et là, avant même de se connaître, ils se font passer mutuellement pour des cons. Mais comment font-ils pour vivre sans connaître la longueur exacte du Nil, le débit de l'Amazone ou le volume du Léman? Mais sont-ils crétins au point de ne pas savoir qui a inventé la télévision? Quelle est la nage préférée de Franck Exposito? Quel est le vrai nom de jeune fille de Marie Curie? Hein? D'ailleurs, avez-vous eu si peu de chance pour ne tomber que sur les plus demeurés du bottin? Et puisqu'on parle de vous, comment se fait-il que vous ne le sachiez pas non plus? C'est vous qui avez apporté ces maudits cubes quand même. Alors? Hein? Résumons. Vous êtes seul, pas de problème avec vos questions d'apéricube, pas de problème avec vos amis, pas d'amis. Vos invités sont venus, ils ne se connaissaient pas, mais ils se détestent déjà et vous aussi par la même occasion. Ils se connaissent, vous les connaissez. Ne vous faites pas d'illusions, ils ne viennent que poussés par le besoin bassement physiologique de se nourrir. Bon appétit. La démonstration est donc faite, posez des questions d'apéricube et l'expression d'un tissu social proche de la peau de chagrin finissante. Alors, bien sûr, vous pouvez vous demander comment être aussi bien renseigné sur ces questions d'apéricube. Eh bien, je vous donne ma réponse, elle est simple. Faites-vous inviter. Cependant, pour ne pas finir dans la catégorie des « seuls », je vous suggère de ne pas poser la question que vous viendrez alors de lire. À moins, bien sûr, que vous ayez un compte à régler avec votre hôte, votre hôtesse. Hein, votre hôte, là. Lui qui a si innocemment sabordé votre dîner en le transformant en pugilat il y a 15 jours, en lisant une devinette de papillote entre le fromage et le dessert.
Oui, entrez dans la maison du bon Dieu.
Attention, attention, c'est très chaud. J'ai réussi à le récupérer, ça sort du four, c'est brûlant.
Oh, du dessert, c'est une bûche.
Non, c'est Cloug.
Non. Monsieur Preskovic, on a fini le dîner et ces personnes allaient partir.
Non, mais il nous jetterait à la rue sans sucre, lui.
Mais moi, j'en veux du dessert.
Oui, écoutez, Pierre, on a bien 5 minutes tout de même. Personne n'appelle en ce moment. Dites-moi, monsieur Preskovic, ce n'est pas le même Cloug que tout à l'heure.
Ah, c'est parce qu'il a changé, je l'ai colmaté avec les spots.
Ah oui, bien, combien sommes-nous?
Pas pour moi, merci.
Oh, Pierre.
Bon. Tiens, les chattes, là.
Mais oui, laissez-vous tenter.
Oh, le gâteau, il a fait...
Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable?
Ah oui, c'est vrai, on croirait une boule puante.
Ça, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable.
Mais c'est parce que c'est très chaud. Les spotsy fermentent à la bicuisson, les odeurs s'exhalent.
Ah oui, comme une fausse sceptique, quoi.
Oui, écoute, en réfléchissant, moi je suis grasse comme un loukoum. Je vais m'abstenir.
Quand ça sent très fort, en général, c'est très bon. Tenez, le mou. Eh bien, une bonne fricassée de mou, c'est très bon, mais ça schlingue.
Oh, ben, crotte, j'ai cassé mon couteau. C'est mou à l'extérieur, à l'intérieur, c'est comme de la pierre.
C'est parce que ça n'a pas le temps de durcir partout, c'est trop chaud. Il faudrait le mettre 5 minutes au frigidaire.
Très bonne idée, Brascovic. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez le ramener chez vous et le manger. Et le monter, quand il sera mangeable. Parce que le frigidaire est cassé chez nous.
Mais non, Pierre, le frigidaire n'est pas cassé.
Mais si, Thérèse.
Écoute, Pierre, on peut bien faire un petit plaisir, monsieur Brascovic.
Ou peut-être un bord de fenêtre.
Fenêtre, excellent, monsieur Brascovic. Avec la petite bise qu'il y a ce soir, ça va refroidir en moins de 2.
C'est ça, oui, ouvrez la fenêtre, ça va aérer.
Attention qu'il s'envole pas.
Mais vous me prenez pour un idiot, Joseph? Que c'est bête, je crains d'avoir été maladroit, monsieur Brascovic.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Pas Pierre, es-tu envolé, voilà.
Tenez, monsieur Presco, allez vite nettoyer. Parce qu'imaginez qu'un chien vienne à manger ça, il pourrait être malade. Non, je veux dire, à cause des bouts de verre.
Quoique n'étant pas le plus petit nain du monde, il n'était pas bien grand. Préventivement à tout complexe d'infériorité, cet adepte du nanisme s'était fourré dans l'idée de se hisser au sommet du pouvoir. Pour atteindre son but, il lui était arrivé de marcher incidemment sur la tête de ses meilleurs amis, manière propre à créer quelques ressentiments. Aussi, lorsqu'au cours du banquet de fin d'année, il se laissa surprendre par une nourriture trop riche et finalement constipante, les autres alpinistes du pouvoir ne restèrent pas les deux pieds dans le même sabot. Sans délai, la ministre de la Santé, une amie compatissante, lui fit porter quelques boîtes de suppositoires à la glycérine. L'ordonnance précisait 6 par jour.
6 par jour? Moi, c'est un vrai rhumat de cheval!
Protesta le rétentionnaire. Et lorsqu'on lui fit remarquer qu'il s'agissait d'un produit des laboratoires, ni trop, ni trop peu, il n'insista pas. La dose devait avoir été calculée au plus juste, mais les jours sans succédèrent aux jours sans. Le non-allant se traîna ainsi jusqu'au 27e suppositoire, quand, enfin, un murmure intestinal le fit se ruer dans l'escalier en direction des toilettes. Hélas, 3 fois hélas, dans sa précipitation, il manqua une marche et tomba sur le cul. L'explosion se fit entendre jusqu'au cap Ferret. Éparpillé sur les murs de l'escalier, il était méconnaissable. Plus tard, on fit repeindre l'endroit. Tout malin qu'il croyait être, le petit bonhomme n'avait pas soupçonné que la raison sociale du laboratoire, ni trop ni trop peu, ne renvoyait pas un juste dosage d'un traitement médical, mais annonçait par cette enseigne rassurante la fabrication maîtrisée d'explosifs à base de nitroglycérine. La préparation des quelques suppositoires nitroglycérinés n'avait d'ailleurs posé aucun problème technique particulier. Alors, 2008, l'année nouvelle, s'annonça soudain sous de bien meilleurs auspices.
Il est minuit, et c'est l'heure de notre tradition, les Nile.
Le lancer de Madge dans le sapin.
Et attention.
Bon lancer cette année. Allons nous coucher.
Madge, assurez-vous d'éteindre avant d'aller au lit, s'il vous plaît. Merci.
Voilà, c'est Noël qui déboule, sa dinde et son chapeau farci. Y'a pas que le sapin qui a les boules, je me sens décoré tout comme lui. Y'a pas que Jésus qui est sur la paille, à cette époque-là j'y suis aussi. Vu que ça coûte cher de faire ripaille, et que c'est pas donné les Barbies. On a tous mis nos tenues de fête, tous les petits plats sont dans les grands. Mais la bine faisant pas la tête, on a tous des têtes d'enterrement. Tout cela parce qu'un grand chevelu qui se croyait plus malin que les autres, au lieu de passer inaperçu, s'est fait mousser par ses apôtres. Tout cela parce qu'une gonzesse qui voulait rester vierge à vie fit passer sa première grossesse pour les travaux du Saint-Esprit. Tiens, voilà mes mères de Cambrai qui nous fait sa visite annuelle et ses chocolats périmés qui finiront à la poubelle. Au dessert, elle va s'écrier « C'est le nougat qui me colle aux dents !» tout en remettant son dentier qu'elle aura léché goulûment. Tino Rossi est au platine, maman ne cesse de répéter tout affairé dans sa cuisine. Avec la neige, ce serait parfait. Tout cela parce qu'un allumé, se croyant le cordon céleste, file au plus grand des jours fériés lorsque sa mère l'achat du lest. Tout cela parce qu'une multitude prête à croire tous les bonimes depuis 20 siècles à l'habitude de fêter le divin enfant. Et voilà Marcel et Jacqueline avec leur cadeau à deux balles que tout un chacun fera mine de trouver on ne peut plus génial. C'est tellement bon de se réunir, ça passe si vite un an déjà. C'est tellement rare aussi faut dire, faudrait faire Noël tous les mois. Vu qu'on n'a pas grand chose à se dire, on n'a pas éteint la télé. Comme il y a une soirée spéciale rire, on n'a pas fini de rigoler. Tout cela parce qu'une starlette qui rêvait de postérité s'est écriée « Oh, je pourrais peut-être faire un truc que personne n'a fait !» Tout cela parce qu'une pimbèche qui ne savait pas où faire son trou s'est faite accoucher dans une crèche criant « Jésus est parmi nous !» Le petit Kevin pleure et se plaint « C'est quand qu'on aura des cadeaux ?» À ton âge, nous, on n'avait rien qu'une mandarine dans nos sabots. On sort la bûche et le champagne, tata Jacqueline s'est endormie. Tonton Marcel, que le vin gagne, vient de vomir sur le tapis. Tout en suçant le fond de son verre, mes mères dit d'un ton assuré en détaillant la serpillière. Oh ben c'est des huîtres qui sont mal passées. Tout cela parce qu'une adultère, craignant de se faire lapider, préféra dire le ventre à terre. Ça, oh ben c'est le bon Dieu qui me l'a fait. Tout cela parce qu'un charpentier, qui ne voulait pas s'avouer cocu, préféra dire que sa moitié n'avait eu que le bon Dieu dans le... Mais il est tard, chacun regrette, après tant de préparation, qu'elle soit déjà finie la fête depuis le temps que nous l'attendions. On va tous laver la vaisselle, et mes mères qui s'est oubliée, comme c'est pas tous les jours Noël, elle s'en est mis un coup dans le nez. En allant me coucher, je me dis que cette fois c'est bien terminé le prochain Noël, et c'est à Paris, avec un petit plateau télé. Mais alors que je me brosse les dents, voilà que j'entends mes mères clamer. La messe de minuit nous attend, ce serait trop bête de la louper. Et nous revoilà repartis à pied dans la pluie et le froid. Papa, maman et le petit Marcel, Jacqueline, mes mères et moi. Mais à peine entrée dans l'église, mes mères est prise par le hoquet et sous les yeux de François d'Assise se met à gerber dans le bénitier. Croyant avoir vu Belzébuth, toutes les belles dames du premier rang commencent à faire dans leur calbute. Pendant que mes mères cherchent ses dents, le curé fait sonner les cloches. Jésus lui-même descend de sa croix en criant c'est vraiment trop moche. Le prochain Noël, ce sera sans moi.
Donc, tu le connais lui?
Oui, c'est Jésus.
Ah, tu le connais? Et tu sais pourquoi on l'a mis là, toi?
C'est quand il est né, c'est Noël.
Oui?
Moi, j'ai un pistolet et une grosse auto à Noël, moi.
Oui, viens ici. Et ben voilà. Un type crucifié égale un pistolet et une auto, c'est tout bête.
Verset premier. Où connaissance est faite de frère Cadfuel. Le frais matin s'annonçait. Les arbres, cariatides de verdure, veillaient sur l'ombre pâle du lieu. Les premiers oiseaux entonnaient leur chant léger, comme autant d'étincelles sonores dans une fin de nuit encore nimbée de silence. À l'horizon, peu à peu, le ciel s'éclaircissait, et bien des étoiles avaient déjà disparu. Un monde s'effaçait, un autre s'ouvrait. Baptisé d'une printanière rosée.
Putain de bordel de Dieu!
Voici frère Cadfuel. Et à cet instant, il enlève la bande velpeau qui écrase son opulente poitrine.
Ah, ce que ça fait du bien!
Svelte, mais pas si grand, porteur d'une petite barbichette brune ainsi que d'une moustache, frère Cadfuel ressemblerait presque à un mousquetaire. Un mousquetaire à lunettes, tonsuré et taillant du 95B. En effet, bien que sous hormones masculinisantes depuis belle durette, Cadfuel a encore ses seins. Il espère bien se les faire enlever au plus vite, mais avec la pingrerie de ses ouailles, c'était pas encore à la Saint-Jean d'Arc de cette année qu'il allait passer sur la table d'opération. Pour l'heure, il va se coucher. il revient du vaste parc du monastère de Queensberry, son monastère de rattachement. Le dit parc est un lieu de drague connu. Les guets viennent se soulager aux alentours de la cabane du jardinier. Les abords de la fontaine de Sainte-Blandine sont quant à eux réservés aux lesbiennes en recherche de moments torrides. Les hétérosexuels, eux, sont parfaitement admises et intégrées, puisqu'on leur a dédié 3 mètres carrés spécialement cultivés de gros rosiers piquants et parfumés à l'extrait de choux, car il fallait bien que les mensonges qu'ils servaient ensuite aux enfants aient un fond de vérité, n'est-ce pas ? Catfuel avait passé la nuit à arpenter le parc. En effet, voilà plusieurs nuits qu'un mauvais plaisantin distribuait des préservatifs en dentelle et des digues dentaires en résille. Quelques heures de planque déguisées en père de famille hétérosexuelle, et Catfuel avait appréhendé la coupable. Une vieille dame qui écoulait sa production artisanale en fil de Scooby-Doo tricoté, croyant participer à l'effort national de prévention. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais surveiller le parc et sermonner les vieilles croyantes à côté de la plaque n'était pas le passe-temps favori de Cad, car il s'appelait en fait Frère Catfuel de chauffage des culs et bains, dit l'inquisiteur. Appartenant à un ordre de moines enquêteurs, il ne se débrouillait pas si mal dans sa branche. C'est notamment lui qui avait retrouvé le patient zéro du VIH et la virginité de Lady Di. De solides affaires qu'il avait menées à traîner sa robe de bure de San Francisco à Meudon en passant par la backroom de Buckingham. Ses grandes histoires avaient fait sa renommée. On avait parlé de lui jusque sur les oreillers du Vatican. Mais c'était un temps qui s'éloignait, le fameux bon vieux temps. Et de tels cas ne s'était pas présenté depuis des lustres. Il en venait même à espérer que Benoît XVI se rendît enfin compte qu'il avait égaré sa sainteté pour partir de nouveau sur des traces intéressantes. Il y avait bien le Graal, mais c'était tellement surfait. Donc, pour l'heure, sans penser à tout ça, il allait se coucher, encore dans l'ignorance de cette affaire qui allait changer la vie, et accessoirement la mort, de pas mal de personnes. Et voilà, c'est la fin de cette émission spéciale Noël, où vous avez pu entendre pêle-mêle diverses chansons, telles que Noël expliqué aux enfants par Laurent Paquin, telles que Joyeux Noël par Pascal Marie, ou encore bientôt à venir Marie-Paul Bell, Joyeux Noël, une reprise de chansons de Barbara, hein, puisque c'est... C'est quand même l'anniversaire de Barbara cette année, tout ça, ça fait un bout de temps qu'elle est morte. Vous avez pu également entendre différents textes. Parmi ceux-là, vous avez entendu Le Rideau, écrit par Loïc Le Foc Fringant. Vous avez pu entendre également un texte issu d'une autre émission. Nous pompons allègrement. Une émission formidable qui s'appelle Là-bas si j'y suis, on va pas faire de publicité, pas plus que ça. Vous avez également entendu le premier verset de SPI Confidential, une histoire écrite par Monsieur Madame Hens, c'est-à-dire moi-même, où vous avez pu donc découvrir Frère Catfuel. Vous avez entendu également l'histoire du calife et du califat, traduite par le docteur Mardru, oui, rien que ça, en 1800 et des brouettes. C'est un extrait des contes des mille et une nuits. Vous avez pu également entendre un certain nombre d'extraits de films, d'extraits de séries. Parmi ceux-ci, vous avez pu entendre le lancer de Madge, extrait du cœur à ses raisons. Vous avez pu entendre les cadeaux de Noël par les têtes à claques. Vous avez pu entendre le Cloug, histoire du Père Noël est une ordure. Vous avez entendu Lui, c'est Jésus, extrait d'un film formidable que je vous recommande, si jamais vous pouvez le trouver, vous aurez alors beaucoup beaucoup de chance. C'est un film qui s'appelle La Belle Verte, un film de Colin Serrault, un film à offrir, hein, je vais pas encourager le consumérisme, mais là c'est un très beau film sur la décroissance, sur notre monde vu par des extraterrestres très très intelligents. Voilà, on a fait le tour de ce qu'on a pu vous diffuser aujourd'hui. Que nous reste-t-il à vous dire ? Au revoir, oui, bien sûr. Profitez bien de l'hiver au fin fond de votre couette. Si vous invitez vos amis, évitez de manger des apéricubes. Si vous invitez votre famille, évitez de faire votre coming out entre la poire et le dessert. Hein, ça le fait pas. Voilà.
pour ceux qui écoutent cette émission le 17, eh ben, on vous souhaite toutes les bonnes fêtes qu'il faut. Pour ceux qui écoutent cette émission le 31, eh bien, festoyez joyeusement et heureusement. Donc, fêtez bien le solstice d'hiver, fêtez bien Noël, fêtez bien le 31. Bien que finalement, toutes ces jolies fêtes, eh bien, il faudrait savoir leur redonner leur sens, hein, comme on dit. Allez, on retrouve la chromosphère sur le net, chromosphere.podomatique.com, sur un forum qui s'appelle grenoble.lgbth.com aussi pour avoir les infos de l'émission. Vous pouvez nous écrire chromosphère 38, chromosphère sans accent, chromosphère 38 at hotmail.fr directement si vous voulez nous envoyer des vœux ou des insultes. Nous les lirons toutes, hein, y a pas de problème, même on pourra peut-être même vous répondre. D'ici là, portez-vous bien et profitez bien de l'esprit de Noël. Gna gna gna. À bientôt.
C'était 22h à peine, ce vendredi-là. C'était veille de Noël, et pour fêter ça, il s'en allait chez Madeleine, près du pont de l'Alma. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. En smoking de velours vert, en col roulé blanc et le cœur en bandoulière, marchant d'un pas lent, à pied il longeait la Seine tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'était 22h à peine, ce vendredi-là. C'était veille de Noël, et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre, près du pont de l'Alma. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. Beauté noire, souveraine, égantée de blanc, elle allait pour dire je t'aime, tout en chantonnant. À pied, elle longeait la Seine, marchant d'un pas lent. Puisqu'elle allait chez Jean-Pierre, elle avait bien le temps. La 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 la. Sur le pont, ils se rencontrèrent. C'est de là qu'ils s'en venaient d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle, des bottes aux gants, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, j'allais chez Jean-Pierre, près du pont de l'Alma. Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça, sous le sapin de lumière, quand il l'embrassa. Heureuse, elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour, ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre un peu tard, ma foi. Bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Alma. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là, eux qui avaient eu un Noël comme on n'en fait pas. Mais il est bien doux quand même de rentrer chez soi après Noël.